Mais ce qui est intéressant avec cette bataille, moi, pour moi, quand il y a la bataille, j'ai l'impression que ça bataille des deux côtés. C'est vraiment une bataille. Mais ce qui est intéressant avec la bataille du Bouddha, ce n'est pas vraiment une bataille. Il y a un agresseur. Mais le Bouddha ne lance pas des flèches de retour. Il ne relance pas les rochers brûlantes et tout le reste. Et dans les batailles de nos mythes, normalement, les vainqueurs, ben, ils gagnent par la force, parfois même avec l'aide de Dieu ou des dieux. Et l'autre est vaincu, mais vraiment mort, éradiqué. Ou si ce n'est pas par la force, c'est par la ruse. Oui, en exploitant une faiblesse de l'ennemi, une faiblesse de l'autre. Et presque toujours l'ennemi est tué. Presque toujours l'ennemi ne survit pas. Mais c'est pas le cas dans cette bataille du Bouddha. Mara reste vivant et en fait il vient voir le Bouddha de temps en temps, même après son éveil pendant sa vie, on entend encore des visites de Mara de temps en temps. Et comme j'ai dit, le Bouddha, ben, il lutte pas de son côté, hein. Il a pas son archer et ses armes à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, rien, semble-t-il. Il reste assis, tranquille, en méditation, immobile. Et tout se transforme en fleurs autour de lui. Je me suis dit, tiens, je sais pas si j'ai jamais entendu quelqu'un regarder cet aspect du mythe. C'est facile à passer tout de suite. Voilà, Mara est décédé et puis ben voilà, le Bouddha atteint l'éveil. Mais qu'est-ce que ça symbolise ces fleurs-là et le fait que le Bouddha ne semble faire rien. Et comment, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ce qui nous arrive par l'extérieur ou par l'intérieur tourne en fleurs au lieu de nous blesser et de nous faire réagir? Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est l'intervention d'un dieu ou des dieux? C'est tout à fait possible. En fait, j'imagine que dans certains récits de l'histoire, il y aura peut-être même des devas, des dieux qui interviennent et qui aident le Bouddha. Je ne sais pas, c'est tout à fait plausible. Donc, mais pas que je sache quand même. Est-ce que le Bouddha a des pouvoirs magiques? Qu'est-ce qui se passe là? Et je pense, j'aimerais bien juste voir un petit peu, peut-être, surtout si on voit cette bataille comme quelque chose qui se passe à l'intérieur du Bouddha, bah, se demander, mais quelles sont ces fleurs, qu'est-ce que ça représente? Je sais pas si mes idées sont vraies ou définitives, mais voilà, j'ai eu quelques idées. Je pense, mais qu'elles représentent, qu'est-ce que symbolisent les fleurs? C'est la beauté. Symboliques souvent sont associés avec la beauté. Si on pense aux fleurs, on pense à la beauté de la nature. Je crois souvent si je pense pas, ça représente la douceur, la délicatesse. Elles sont fragiles, les fleurs. Elles peuvent faire mal à personne, à part les asthmates, bien sûr, mais ça c'est autre chose. Oui, une douceur, une délicatesse. Et pour moi aussi, c'est le symbolisme, le changement de rythme, tout ce qui arrive, les missiles, les armes qui arrivent à toute vitesse, et puis en fait les fleurs qui tombent vraiment en douceur. C'est quelque chose de différent, c'est un état d'esprit différent. Et bien sûr, en tant que troisième offrande, première offrande, une de nos offrandes traditionnelles, elle représente l'impermanence. Elles sont éphémères, les fleurs. Aujourd'hui, ils sont écloses, mais demain, elles seront fanées. Et je pense que peut-être ça veut dire que c'est ça que voit le Bouddha. Donc, quand il regarde tout ce qui lui arrive, que ce soit quand le voit comme des missiles de Mara à l'extérieur ou qu'on le voit comme des espèces d'orages intérieurs chez lui, qu'est-ce qu'il voit? Il est capable de voir la beauté quelque part dans tout ça. Il est capable de répondre avec douceur, de le prendre avec délicatesse. Et il voit surtout l'impermanence. Et en fait, j'aurais dû le dire peut-être dans l'autre sens, parce que je suis convaincue que c'est voir l'impermanence et la vacuité, chose qui permet les deux autres, qui nous permet de voir la beauté et qui nous permet d'avoir de plus de délicatesse. et de douceur dans notre réponse. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur le Bouddha. Je crois que nous, moi, pour de toute façon, je parle juste de moi, devant cette attaque de Mara, ben, je crois que j'aurais peur quand même. Mais clairement, le Bouddha n'a pas peur. Et je crois qu'il n'a pas peur parce qu'il voit la vérité, il voit l'impermanence, il voit la vacuité de tout ce qui se passe là. Il sait que ça ne peut pas vraiment lui toucher. S'il sait que c'est impermanent, éphémère, vide de foi, vide de sens propre. Et à cause de ça, il arrive même peut-être à voir la beauté. Peut-être c'est lui qui voit les fleurs, en fait, qui voit les arbres et qui les voit comme fleurs. Ça me fait penser un petit peu à l'enseignement dans la tradition tibétaine, de voir son ennemi comme son meilleur ami. Et en fait, c'est ça que ça représente. Ben voilà, oui, il voit pas Mara comme un ennemi. Il est juste, voilà, il voit juste Mara, quoi. Il voit les fleurs, quoi. Et je crois qu'on peut, je sais que ça semble complètement, d'une certaine manière, fantastique et impossible d'un certain côté. Mais je crois qu'on a même vécu ça. Je suis sûre que la plupart, nous tous, en fait, aurait vécu quand même des moments où quelque chose de très difficile nous arrive et au lieu de répondre avec l'aversion, avec la haine, avec il y a quelque chose en nous qui nous permet de voir quand même quelque chose de positif là-dedans, ou de voir d'accueillir avec plus de douceur, ou de même de voir la beauté dans des choses qui semblent difficiles. Je vous invite à réfléchir, regarder dans votre expérience, parce que c'est bien d'essayer de ne pas laisser ça juste chez le Bouddha, parce que ça reste trop lointain, mais vraiment chercher, il y a toujours de son expérience, il y a toujours des petits échos en nous, dans notre expérience. Sinon, on ne pourrait pas comprendre ce qu'il nous enseigne. C'est les petits échos qu'il y a en nous qui nous permettent de faire le saut de l'imagination pour comprendre le message du Bouddha. Donc voilà, comment arrive-t-il à faire cela? Il ne lutte pas contre la réalité. Il ne se met pas en opposition à ce qui se passe. Je crois que pour moi, c'est peut-être ça aussi la clé. Il ne se polarise pas avec Mara. Et si je regarde mon propre expérience, c'est là aussi je vois, quand les choses difficiles m'arrivent, ou je rencontre des états d'esprit difficiles chez moi, je commence par ne pas vouloir que ça soit le cas, ne pas vouloir que ça soit là, et donc je lutte déjà contre la réalité. Je n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Et donc je me mets en opposition à la réalité. Et c'est là où commence la bataille, où il y a les deux côtés qui poussent. Mais le Bouddha ne fait pas ça. Il maintient des états d'esprit positifs. Et j'imagine que ça veut dire du metta, de la confiance. Et puis, surtout la perspective de la vacuité et de l'impermanence, la compréhension. Et c'est tout, ce n'est pas une magie. C'est très simple d'une certaine manière. Le Bouddha n'avait pas d'armes secrets, ni des pouvoirs magiques, ni des dieux qui l'aidaient forcément. C'était juste la compassion, en fait, le metta, la compassion, la compréhension.